da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim despre un roman, Copiii lui Himmler, de Caroline de Mulder. O poveste cutremurătoare care pornește de la una dintre cele mai crude realități ale regimului nazist, maternitățile Lebensborn ale lui Heinrich Himmler, fost comandant al forțelor paramilitare SS și unul dintre liderii Germaniei naziste. Lebensborn, fântâna vieții, a fost o organizație germană nazistă inițiată de Heinrich Himmler, care avea maternități și acorda asistență financiară soțiilor membrilor SS. Totodată ținea orfelinate și avea programe de relocare pentru copiii răpiți de naziști. 20.000 de copii s-au născut prin programul Lebensborn. Inițial întemeiată în 1935 în Germania, organizația Lebensborn s-a întins în Europa de vest și nord în timpul ocupației naziste din al doilea război mondial. Programul era doar pentru copiii care erau considerați pur din punct de vedere rasial. În multe dintre țările ocupate de naziști, multe femei care aveau copii cu soldați germani și care erau ostracizate din această cauză nu aveau altă alternativă decât să ceară ajutorul organizației Lebensborn. Este și cazul tinerei René, o franțuzoaică repudiată de familie după ce s-a îndrăgostit de un soldat german și care își găsește refugiul în așteptarea unei nașteri nedorite. În această primă maternitate nazistă, Helga, o infirmieră responsabilă cu îngrijirea femeilor însărcinate și a bebelușilor, este martora destinelor tragice ale unora dintre locatare și ale copiilor respinși atunci când nu îndeplinesc criteriile cerute. În fața acestei cruzimi, convingerile ei ajung să se clatine. Pe măsură ce aliații se apropie, organizarea bine pusă la punct a maternităților Lebensborn se năruie, iar adăpostul devine o capcană. Ce se va întâmpla cu ei când vor sosi soldații americani? Care vor fi opțiunile lor? Un roman despre care Le Figaro Literar a spus că are forța unui mare documentar. M-am întâlnit la București cu autoarea romanului.
Caroline de Mulder. Est-ce qu'on prononce comme ça votre nom?
En français, non. Oui, mais en néerlandais, parce que je suis flamande à la base, c'est de Mulder. Caroline de Mulder.
Ah, merci d'avoir précisé tout ça. Avant de parler de votre livre, est-ce qu'on peut parler de vous? La pouponnière de Himmler, c'est ça le titre en français, Copie Louis Himmler en roumain. C'est votre sixième roman, mais avant ça, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait avant?
Je suis flamande à la base et j'ai vraiment eu une éducation bilingue, mes parents étant néerlandophones. Et je suis allée à l'école en français à partir de mes 5 ans, donc c'est là que j'ai appris à lire et à écrire. Ensuite, je suis passée en français pour l'école primaire, puis l'école secondaire, comme on appelle ça en Belgique, je l'ai faite en néerlandais. Puis j'ai étudié les langues romanes, langues et littérature romane, à Namur, en français de nouveau. Puis je suis repassée à Gand, puis j'ai fait un DEA à Paris et une thèse à Gand et un post-doc de nouveau à Paris. Et maintenant, je suis prof aussi à Namur, donc je suis à la fois professeure de lettres à Namur et romancière.
Devenir romancière, est-ce que c'était votre rêve d'enfance ou c'est venu comment?
C'est-à-dire que j'étais une très très grande lectrice. J'ai lu beaucoup, énormément, et pour moi c'était une passion et je pense que c'était assez naturel à force de lire, de vouloir écrire. Et je pense que oui, quelque part il y avait le rêve d'écrire ou en tout cas de faire quelque chose avec la littérature. C'est une chance puisque maintenant je fais deux choses dans la littérature, à la fois enseignante de lettres et romancière. Et pour moi, en fait, ce sont deux manières de partager ma passion, deux manières différentes et complémentaires de partager ma passion des livres et de la littérature. J'ai commencé à écrire vers 7-8 ans. Comme tous les enfants, je pense, j'illustrais moi-même les petites histoires que j'écrivais.
Illustratrice également, alors.
Oui, mais ça, c'est quelque chose qui par la suite, c'est perdu. Oui, je pense que tous les enfants, beaucoup d'enfants écrivent. Ensuite, je m'en rappelle, à cause de la suite. J'ai écrit très tôt et j'ai commencé à écrire des textes plus longs vers 12-13 ans. 14-15 ans, c'était, voilà, je remplissais des feuilles A4 avec mon écriture de petite adolescente à l'époque, et c'était très très mauvais, c'était illisible à vrai dire. Ça allait rester un certain temps, y compris les livres. Alors il y a eu quand même un moment important quand à 18 ans j'ai commencé à arrêter de lire n'importe quoi. Jusque-là, comme j'avais pas vraiment de guide dans la famille pour me dire « mais ça, ce sont des classiques, mais lis donc ceci, lis donc cela », je lisais absolument n'importe quoi, y compris des ouvrages qui n'avaient rien de littéraire, à vrai dire. Voilà, j'écumais les rayonnages de la bibliothèque de la petite ville que j'habitais alors. Donc, je suis originaire de Gand, mais j'ai passé une partie de mon enfance à Moucron, près de la frontière française, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivée sur des livres concernant la Deuxième Guerre mondiale, très, très vite. Donc, j'ai fait le rayon jeunesse et j'en ai vite fait le tour, les BD, tout ça. Et je suis passée du côté adulte, où j'ai lu des choses que j'aurais pas dû lire si jeune, je pense. Et notamment vers 13-14 ans, j'ai découvert toute cette littérature, pas seulement des romans, surtout des témoignages en fait sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis tombée là-dessus et je m'en suis jamais vraiment remise. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai éprouvé le besoin à un moment donné d'écrire un roman sur cette Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc il y a eu ce moment-là. Et il y a eu aussi à 18 ans, quand j'ai commencé à étudier les romanes, tout à coup j'ai découvert le style, les grands livres que jusque-là j'étais, voilà, je lisais tout et n'importe quoi mais de manière très désordonnée et des choses la plupart des titres je me rappelle même pas de ce que c'était, en tout cas c'était pas des classiques et là vraiment ça a été pour moi une révélation et d'ailleurs pendant des années après je n'ai juré que par le style, le contenu c'était pas très important, l'important c'était la manière dont les mots s'agençaient. Ça a duré un certain temps, ça a donné aussi d'autres œuvres de ma part qui n'étaient pas forcément plus intéressantes que celles que j'écrivais avant 18 ans. Donc, mais au fond, c'était pas du temps perdu parce que je pense que c'était, voilà, ça m'a fait progresser lentement, mais sûrement. Et voilà, j'ai écrit, puis après, j'ai commencé peut-être vers 25 ans. À me dire, tiens, mais si j'essayais peut-être de trouver un éditeur ou de publier ça. Puis je m'y prenais très mal parce que j'ai commencé à envoyer mes manuscrits, je les envoyais toujours à deux éditeurs seulement, qui étaient les éditions de Minuit et POL. Bon, évidemment, c'était pas suffisant de faire
très
ça.
Très exigeant, quand même.
Et d'ailleurs, Paul Tchaïkovski, Laurence, me répondait, m'écrivait des lettres, me disait, tiens, oui, c'est intéressant, il y a quelque chose, envoyez-moi donc votre prochain, etc.
Ah, quand même.
Oui, non, si. Alors, tandis que Minuit, c'était toujours la lettre standard, hein, n'entre pas dans notre ligne de publication. Donc, comme ça, c'était réglé. Voilà, à un moment donné, mais c'était déjà quand même... Moi, je connaissais personne, hein, donc je vivais au fin fond de la Belgique, dans un milieu qui était au fond très très éloigné de tout ce qui était éditorial ou littéraire. Et c'est quand j'étais à Paris, parce que j'ai vécu à Paris pour faire mon postdoc, que j'ai pris la décision de faire des choses un peu plus... de manière un peu plus... professionnel presque, je dirais, et où j'ai envoyé mon premier manuscrit, Ego Tango, où je me suis dit, bon, ben, je vais l'envoyer à 10 éditeurs, on verra bien. Et donc, je l'ai envoyé à tous les grands éditeurs de la place de Paris, qui l'ont tous refusé, ce qui n'est pas inhabituel. En revanche, il y a un éditeur français, qui est un petit éditeur, mais de grande qualité, que j'aime beaucoup, qui est Champvallon, qui m'a dit, tiens, mais on est intéressé, on le prend, donc la troisième partie est à refaire, mais je vous fais déjà un contrat. Et c'est, voilà, je suis toujours très reconnaissante à cette maison plus petite qui a pris mon manuscrit par la poste, en me connaissant, enfin évidemment personne ne me connaissait, qui a pris le risque et qui m'a fait confiance et grâce à qui j'ai pu être publiée pour ce premier texte. Et c'était important parce que au fond, le fait d'être publié, ça permet aussi de progresser.
Ça donne des ailes, ça donne confiance.
Confiance, et puis ça permet de progresser d'une autre manière. On a des regards extérieurs professionnels qui vous permettent de voir quels sont les défauts, les choses à améliorer. On a le regard extérieur de lecteurs, des critiques. Et ça, en dehors de la question de la confiance en soi, qui est importante, il y a vraiment des retours qui permettent de grandir. Mmh. Bah forcément, quand on est là à écrire tout seul dans son coin, un peu comme une maladie pendant des années, c'est moins rapide. Alors, on avance aussi, mais on avance beaucoup plus lentement. Mmh. Donc, voilà, eux, ils m'ont donné cette chance-là. Et voilà, après, bon, je ne vais peut-être pas m'étendre sur les circonstances de publication de chacun de mes livres, mais voilà. Et alors maintenant, ce qu'il y a quand même et que je n'avais pas du tout, il y a des ateliers d'écriture. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Il y a un côté très, très... il y a un marketing maintenant de l'atelier d'écriture, donc tout ne se vaut pas. Mais je suis en dehors... Enfin, je suis professeure à l'Université de Namur, mais aussi au Master Texte et Création Littéraire de la Cambre, où on a donc de jeunes auteurs non publiés, mais qui ont déjà des projets de romans, qui travaillent pendant 2 ans sur un projet. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment apprendre à écrire. En revanche, je pense qu'on peut faire gagner du temps. Et je me dis, voilà, comment est-ce que je peux les faire avancer plus vite, au fond ? Qu'est-ce qui, moi, m'aurait permis d'avancer plus vite ? Et j'essaye de transmettre ça à mes étudiants. Et donc ça, c'est quand même une chance, parce que ce sont... ils sont... suivis, ils ont un cadre, ils ont une légitimité. Il y a d'ailleurs plusieurs, il n'y a pas que la Cambre, hein, il y a aussi maintenant à Paris, à Lille, il y a plusieurs écoles maintenant de création littéraire. Ça permet quand même de... Voilà, ça c'est une chance qui existe maintenant et qui n'existait pas quand j'étais jeune.
Passons à la pouponnière d'Himmler.
Oui, alors il y a... Un des points de départ de mon livre, c'est une photo d'archive, en fait, où on voit une rangée de berceaux drapés de blanc, fraîchement, de linge fraîchement repassé et très, très blanc. Une infirmière qui se tient devant. Cette rangée de berceaux se trouve à l'extérieur d'une demeure. On voit que c'est une belle grande demeure. Et tout semble extrêmement paisible, extrêmement beau, extrêmement pur, blanc. Tout ça se trouve en dessous d'un drapeau SS noir. Et ce contraste, qui est extrêmement violent, m'a frappée. Je pense que c'est, au fond, un peu... Ça marque, en fait, toute l'esthétique de mon roman, ce contraste. Ce contraste entre la vie, une quête de pureté, et puis cette violence, cette noirceur, cette obscurité. C'est vraiment voilà le système d'opposition qui marque tout mon roman, en fait. Alors donc, effectivement, le cadre, c'est une des maternités nazies. Il y en a eu une quarantaine, hein, donc c'était des maternités qui appartenaient au programme Lebensborn, conçu par Himmler. Himmler avait cette idée à la fois de réarmer démographiquement l'Allemagne et de purifier le sang allemand. Une quarantaine de maternités, 20 000 naissances environ. Ensuite, Himmler trouvait que ça n'avançait pas assez vite. Et il y a eu tout un pan enlèvement qui s'est ajouté. On enlevait des enfants sélectionnés pour les germaniser de force. Voilà, et mes trois personnages se croisent, se rencontrent dans ce cadre-là. Il y a la jeune Renée, qui est une jeune Française qui fait partie des premières tondues, hein, puisqu'on a commencé vraiment l'épuration à partir de 1944 en Normandie, avant même la fin officielle de la guerre, qui s'est d'abord retrouvée dans le Lebensborn français, à côté de Chantilly, à la Morlaix, et qui ensuite a été évacuée, puisque tous les Heims ont été petit à petit évacués vers l'Allemagne à mesure que la ligne de front allemande reculait, qui s'est ensuite retrouvée au Heim Hochland, en Bavière, qui est vraiment l'endroit où tout se passe dans mon livre. Et puis elle, c'est d'abord le point de vue naïf, parce qu'elle ne sait pas très bien Elle a été, voilà, elle a eu une liaison avec un Allemand. Elle s'est.
Elle est toujours amoureuse
elle
de
est
lui.
Toujours, elle est toujours amoureuse. Elle l'attend. Elle n'a que ça à faire d'ailleurs, à l'attendre. Hein. Elle passe ses journées à l'attendre d'une certaine manière. Voilà, elle se retrouve dans cette maison sans comprendre les implications vraiment de sa présence là. Mon deuxième personnage, je dirais que c'est mon personnage principal, c'est Schwester Helga, une jeune infirmière nazie qui, comme la plupart des jeunes gens de sa génération, est quand même très très endoctrinée du point de vue idéologique et qui est persuadée, en tout cas au début de l'histoire, elle est persuadée d'être du bon côté. Hein, elle soigne, elle se dévoue, au prix d'ailleurs de sa vie personnelle, hein, puisqu'elle n'a en fait pas de vie personnelle, elle s'occupe vraiment des femmes et des bébés qui naissent dans ce heim. Alors il va se passer certaines choses dans le heim qui vont petit à petit quand même la faire douter, qui vont lui faire comprendre les implications de ce qu'elle fait. Voilà. Et mon troisième personnage, qui est un personnage que j'ai développé dans un deuxième temps en fait, ma première version sans lui ou avec lui dans un rôle très très restreint ne fonctionnait pas. Mon troisième personnage, c'est le personnage de Marek, qui est un prisonnier politique polonais et qui fait partie de cette équipe de prisonniers détachés du KZ Dachau, qui est chargé d'entretenir le domaine. Équipe de prisonniers qui a vraiment existé, qui a vraiment voilà habité près du domaine. Et ce prisonnier en fait va me permettre de faire entrer l'ombre de la guerre quand même au-dessus de cet endroit si paisible, si protégé, voilà si préservé au fond, si loin de la guerre. C'est grâce à Marek qu'on va quand même sentir avoir ce contrepoint de la guerre. La guerre, c'est-à-dire la faim, la souffrance physique, la mort, tout ce côté très très obscur et très très horrible de la guerre. Voilà, c'est lui qui apporte ce contrepoint-là.
Dans cette pouponnière, vient au monde à un moment donné un enfant qui n'est pas aux normes. Il est comment ?
Un enfant qui présente une déficience mentale, en l'occurrence, qui est le petit Jürgen, et qui va se retrouver convoyé vers Brandenburg-Gurden, qui était l'endroit en fait où on supprimait ces enfants-là. Hein, c'était effectivement des enfants qui naissaient dans un heim et qui présentaient ce type d'anomalie. On les écartait au plus vite. Alors c'est un enfant qui a réellement existé. J'ai retrouvé ses traces dans les archives. Et ça m'a frappé. Et c'est en fait voilà, c'est ce qui va se passer avec ce petit garçon qui va aussi commencer à faire douter Helga.
Nous sommes à la librairie Humanitas Chișmigiu et en fait le bruit qu'on entend, le bruit des chaises qui se déplient parce que vous allez avoir le lancement du livre dans pas très très longtemps, dans quelques minutes. On dit souvent de votre livre qu'il a la force d'un film documentaire.
Oui, alors ce que vous dites à propos du film documentaire, c'est intéressant parce que la grande difficulté, ça a été évidemment de s'approprier toute cette documentation, mais plus grande a été la difficulté de s'en détacher pour entrer dans la fiction. Et donc c'est grâce effectivement à ces personnages fictionnels que j'y arrive, mais c'est vrai que ma première version, enfin j'ai plusieurs versions... de ce livre, je l'ai réécrit beaucoup. La première version était en fait trop, trop documentaire. On avait l'impression d'avoir un petit manuel du parfait Lebensborn. C'était pas bon. Et je l'ai réécrit vraiment dans le sens de la fiction. Et avec, grâce à ces personnages-là, je pense avoir réussi à y entrer. Ensuite, une histoire dure à porter, oui, mais ça n'a pas été plus dur au fond que... ma découverte à l'époque de l'Holocauste, de la Shoah, comme je vous ai dit, c'est un univers que j'ai découvert très jeune, vers 13-14 ans. Et au fond, le fait d'écrire cette histoire, d'aborder cette Deuxième Guerre mondiale, même sous l'angle un peu décalé des femmes, c'est plutôt une manière, je pense, de canaliser ces émotions négatives et d'essayer... d'en faire quelque chose de constructif. C'est un livre voilà, qui a quand même très, très bien marché au-delà de mes espérances, à vrai dire. Donc, pour moi, c'était Ouais, c'était un peu inespéré. J'étais très, très heureuse de la réception de ce livre, me disant oui, que c'est quand même peut-être aussi le thème. Et le fait qu'on s'intéresse encore toujours à cette Deuxième Guerre mondiale dont on n'a pas vraiment guéri, et voilà cette question sous-jacente qui est en fait comment est-ce que l'humanité ordinaire a pu basculer dans quelque chose d'aussi monstrueux, c'est vraiment ça qui est le cœur de ce roman. Je pense que ça résonne peut-être chez les lecteurs, et ça me fait plaisir d'avoir réussi à les atteindre de cette manière-là. Ensuite, le procédé d'utiliser quelques mots d'allemand, c'est pas moi qui l'ai inventé. On le retrouve aussi dans le livre de Robert Merle, La mort est mon métier, que je cite en épigraphe d'ailleurs. Et c'est vrai que pour moi, l'utilisation de ces mots-là s'imposait presque, parce qu'on entre chaque langue est un univers différent, une manière différente d'aborder le monde. Et à force de lire tous ces documents en allemand et toute cette réalité qui a été quand même très, très fondamentalement allemande à l'époque, je dois dire qu'à un moment donné, j'avais presque envie de l'écrire en allemand, ce livre. Je me suis dit, mais pour que ça sonne vraiment juste, il faudrait que tout soit en allemand. Mmh. Donc évidemment, je suis totalement incapable d'écrire un livre en allemand, mais ces quelques mots me permettaient malgré tout de toucher une forme de réalité ou de l'effleurer au moins. Alors c'est vrai qu'on arrive à un moment où les enfants qui sont nés dans les Lebensborn sont morts ou en train ou en tout cas très très vieux. C'est sans doute une manière aussi, oui, de leur donner une voix et de continuer à donner une réalité à ce qui s'est passé à l'époque. J'ai rencontré beaucoup de classes dans le cadre de la publication de ce livre, ce qui était très intéressant. Et je pense que c'est une bonne chose, même si c'est... Je pense qu'ils sont trop jeunes, en fait, hein, les lycéens, pour lire ce type de livre. C'est pas un livre jeunesse du tout. C'est un livre qui est difficile à la fois par le contenu et par la forme. Mais je pense que c'est une bonne chose, oui, de les faire lire et de leur faire visiter des camps de concentration, parce qu'on peut leur montrer toutes les photos du monde et leur faire apprendre toutes les dates et tous les chiffres du monde. Quand on entre dans ce type d'endroit, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'extrêmement oppressant qui se passe et qui donne corps à la réalité et au passé. Donc oui, je pense qu'il faut quand même continuer à cultiver la mémoire de ce qui s'est passé et garder conscience aussi de cette fragilité qui est la nôtre et qui peut nous faire basculer très 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 facilement. Voilà, la question qui est au fond du livre, c'est voilà, avec cette jeune infirmière qui n'est pas une mauvaise personne, mais qui se retrouve au fond du mauvais côté, mais qui a accepté aussi d'être du mauvais côté. Donc il y a quand même quelque chose de volontaire. Il y a un choix, même partiel, qu'elle fait, qu'elle porte, dont elle est responsable. Ça nous montre que tous, en fait, nous sommes susceptibles de basculer. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous aurions fait, nous, à sa place? Et si des événements, pas similaires, parce que ça ne sera jamais tout à fait la même chose, mais si des événements aussi durs, qui nous confrontent autant à nous-mêmes, devaient se reproduire, serions-nous capables de résister?
Ou de réaliser tout de suite que c'est quelque chose de mal qui se passe, que nous sommes du mauvais côté.
Alors, du mauvais côté, après, il faut toujours attendre le fin mot de l'histoire. On le connaît finalement qu'au bout de plusieurs années. On a toujours des versions très limitées, très partielles de la réalité, mais quand même d'avoir conscience que peut-être on est en train de dériver vers quelque chose que plus tard on pourrait considérer comme étant mal. Ça n'est pas vraiment le sujet de mon roman, puisque les bébés, à la fin de mon roman, les bébés nés dans les Lebensborn sont encore toujours très, très petits. Il y a eu cependant beaucoup de documentaires, des livres aussi sur ces gens. J'ai eu des contacts avec le fils d'une femme née dans un Lebensborn qui m'a contacté, qui a monté une pièce de théâtre à Paris L'année dernière, Mathieu Niango, de Petits Chevaux. Il y a eu un roman graphique qui a paru, Lebensborn, d'Isabelle Maroger. Je pense qu'il y a effectivement le fait aussi que ces personnes sont en train de disparaître, fait qu'il y a un tabou qui se lève et qu'on commence à en parler davantage de ce programme Lebensborn, qui est resté quand même, voilà, très très longtemps assez discret.
Am ascultat-o pe scriitoarea belgiană Caroline de Mulder. Copiii lui Himmler este primul său roman publicat în limba română și a apărut în aprilie 2025 la editura Nemira în colecția Nemira Fiction, în traducerea Dianei Morărașu. Iată acum și alte câteva informații care poate că vă vor interesa în următoarele zile. Publicul timișoran este invitat pe 13 iunie la a cincea ediție a Nopții Filozofiei la Timișoara. Tema esențială și incomodă, democrație, atenție fragilă. Evenimentul este organizat de Institutul Francez din România la Timișoara și va aduce în oraș, timp de o noapte și o dimineață, filozofi, istorici, artiști, sociologi și specialiști în inteligență artificială într-un maraton de conferințe, mese rotunde, proiecții, dezbateri și degustări cu miez filozofic. Întoarcerea războiului de proximitate, ascensiunea naționalismelor, concepțiile fixe despre identitate, dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor, transformările sociale și antropologice, urgențele de tot felul, climatică, economică sau biologică, prezentul nostru democratic este supus unor încercări pe care le credeam depășite, dar și unor amenințări complet inedite. Psihicul nostru, luciditatea noastră politică, capacitatea de a ne proiecta în viitor sunt profund afectate. A privi acest prezent așa cum este, a-l analiza cât mai atent pentru a surprinde aspectele sale cele mai puțin evidente, rămâne, cel puțin aceasta este direcția propusă de această noapte a filozofiei, cel mai sigur mod de a înțelege ceea ce urmează. O asemenea ambiție nu se poate lipsi de prezența artei, spune Leon Visnia, curatorul evenimentului. Așadar, pe 13 și 14 iunie, Noaptea Filozofiei revine la Timișoara cu o temă mai actuală ca niciodată: starea fragilă a democrației în fața conflictelor, populismului, manipulării informaționale și exploziei tehnologice. Periplul filozofic de anul acesta va începe la Institutul Francez și va continua la Librăria Independentă la Două Pufnițe, la Librăria Cărturești Mersi, la Muzeul Național de Artă Timișoara, Comenduirea Garnizoanei și Sinagoga din Cetate. Accesul este gratuit, iar evenimentele se vor desfășura în limbile română, franceză și engleză. Vă invit să găsiți mai multe detalii pe site-ul Institutului Francez din România la Timișoara. Ambasada Italiei și Institutul Italian de Cultură vă invită la concertul extraordinar Voglio vivere così, așa vreau să trăiesc, susținut de Serena Autieri. Se va întâmpla joi 19 iunie de la ora 19 la Sala Luceafărul pe strada Ion Ghica numărul 3. O călătorie muzicală prin cele mai frumoase șlagere italiene, cântece care au trecut testul timpului și continuă să inspire generații. Cunoscută pentru cariera sa complexă, actriță, cântăreață și prezentatoare, Serena Autieri a colaborat cu nume mari precum Andrea Bocelli, Michael Bolton, Renato Zero și Lucio Dalla. Zina Gallery din Cluj-Napoca vă invită joi, 12 iunie, de la ora 18, la expoziția de grup intitulată Cash, care prezintă lucrările artiștilor și artistelor Lucian Barbu, Giulia Crețulescu și Roberta Curcă și este curatoriată de Iulia Vlad. Schițele, desenele, notițele, urmele și hârtiile găsite în atelierele artiștilor au un farmec discret. Ele invită privitorul într-un spațiu intim și nemediat, o incursiune care pare o ușoară indiscreție. În acest context, privirea devine înțelegere, iar imaginea începe să existe de sine stătătoare, căpătând sens dincolo de rolul său într-o lucrare finalizată. Plecând de la schiță și desen ca forme esențiale de expresie, expoziția urmărește etapele procesului conceptual și creativ al artiștilor. Lucrările sunt prezentate alături de obiecte din atelier, șabloane, machete de hârtie, resturi de creion și caiete de schițe, punând în evidență legătura dintre gând și formă, dintre idee și execuție. Titlul cache, preluat din informatică, este un tip de memorie auxiliară stocată pentru acces rapid. În psihologia cognitivă, visual cache desemnează un sistem temporar de stocare a informațiilor vizuale și spațiale. Aceste concepte reflectă propriile arhive vizuale ale artiștilor, colecții vizuale păstrate în rezervă, adesea nevăzute de public. Asemenea afișierelor cache sau gândurilor trecătoare, aceste imagini dezvăluie dimensiuni intime ale procesului artistic. Lucrările lui Lucian Barbu, Giuliei Crețulescu și Robertei Curcă utilizează cu precădere desenul și repetiția formelor. Artiștii experimentează cu contururi geometrice și figurative prin tehnici precum decupajul, șablonul și matricea. Odată definită, forma este reiterată, repetiția devenind o metodă prin care imaginea se permanentizează. Dincolo de desen, artiștii lucrează cu hârtia ca mediu în sine, utilizând tehnici precum legarea, colajul sau fabricarea manuală a hârtiei. Aducând în prim plan practica de atelier a artiștilor, cache revizitează grafismul ca limbaj vizual autentic, complex, autonom și accesibil, iată ce ne spune curatoarea Iulia Vlad. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul zinagallery.com. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!